Les voies de service, mercredi 16 janvier. Mercredi 17 janvier, et c'est, vous voyez, c'est reparti la tradition des dates qui se mélangent dans mon cerveau. Pourtant, j'écris la date tous les jours au travail. Mais voilà. Alors, aujourd'hui, bonjour messieurs, on est enfin réunis tous les trois. Ça faisait temps que ce n'était pas arrivé, alors réjouissons-nous. De quoi vous allez nous parler? On s'en doute un petit peu, mais quand même, confirmez-nous, Daniel.
Oui, j'imagine que tout le monde est déjà au courant là, du décès de la chanteuse de Cranberry, Dolores O'Riordan. Je vais vous en reparler un peu aujourd'hui. Et je vais vous parler aussi en deuxième partie d'un documentaire sur David Bowie.
Ah, un peu plus réjouissant, peut-être.
Oui, peut-être.
Pas nécessairement.
On verra.
Et de votre côté, Serge?
Oui, dans la presse du 31 décembre, il y a eu un spécial qui va m'alimenter pour quelques semaines. Il y avait, entre autres, je vais vous parler des inventions ingénieuses et le grand saut dans l'ère numérique.
Excellent.
Et peut-être, si on a le temps, un petit quiz à la fin.
Ah, on aime ça, les quiz. Ben, de mon côté, je vais vous parler de racisme et de comment ça a un impact sur l'éducation des élèves autochtones à Thunder Bay, en Ontario. Mais tout d'abord, je vais vous parler de cette fameuse vague d'enlèvement, enfin des adoptions forcées qui avait commencé dans les années 60. Mm-hmm. Et c'est donc avec ce sujet tellement réjouissant, moi aussi, que, ben non, écoutez, malheureusement, c'est souvent le cas à cette chronique que je parle de choses qui sont un peu désolantes, mais au moins, on peut en parler au passé, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Mmh. Alors, c'est un article que j'ai trouvé sur le site de Radio-Canada dans la section Société, publié le 13 janvier dernier. « Autochtones placés en adoption dans les années 60, c'est un enlèvement carrément. » C'est un texte de Fanny Sanson. Un résident de l'Abitibi-Témiscamingue a cru pendant des années qu'il avait été placé en adoption par ses parents biologiques. Serge Gagné a appris à l'âge de 32 ans qu'il est plutôt l'une des nombreuses victimes de la rafle des années 60, une période durant laquelle des milliers d'enfants autochtones ont été enlevés. La vague d'enlèvement a commencé avec la modification, en 1951, de la loi sur les Indiens. Ces changements, qui suivent la période des pensionnats, permettaient aux provinces de gérer le bien-être des enfants autochtones. Les organismes de protection de l'enfance décident alors de retirer des milliers d'enfants de leur communauté pour les placer dans des foyers non autochtones au Canada, aux États-Unis et même outre-mer, jusqu'en 1984. Serge Gagné est l'un d'eux. Il est né le 8 avril 1963 à l'hôpital Duville, géré à l'époque par des Sœurs Grises de la Croix, à Noranda. Qui a maintenant été fusionné avec Rouyn, qui s'appelle maintenant Rouyn-Noranda. Mais quand j'ai grandi dans mon Abitibi natal, ça s'appelait encore Noranda.
Ça, c'était avant les fusions.
Oui, oui, c'était avant les fusions. Il apprend en 1996 qu'il a été enlevé à sa naissance afin d'être placé en adoption. L'homme de 54 ans aujourd'hui, qui a depuis ajouté le patronyme Wabi à son nom de famille, ignorait totalement ses origines. Il croyait que ses parents biologiques avaient perdu la vie dans un grave accident. C'est ça qui est le pire, je pense, c'est que non seulement on les a enlevés, mais on leur a menti, on leur fait croire que leur parent était décédé. Quand j'allais chez le médecin et que j'étais plus vieux, vers l'âge de 16-18 ans, on me demandait tout le temps mes antécédents et vu que j'étais adoptée, je ne le savais pas. Serge Gagné-Wabi a donc entamé un long processus auprès des services sociaux pour retrouver ses géniteurs. Ça a pris 15 ans avant que ce soit mon tour. On m'a demandé 1 500 $ que j'ai dû payer. Par la suite, ça a pris quelques mois pour retrouver mes origines. C'est avec beaucoup d'émotion qu'il raconte sa vie marquée par la recherche de son identité. Ma mère a accouché à Noranda. On m'a transférée à l'hôpital d'Amos. C'est un enlèvement, carrément. Après sa naissance, il a été transféré dans un hôpital d'Amos, donc où il a été placé en adoption. Sa mère, Marie Wabi, a quitté l'établissement sans son fils. Elle est retournée à Témiscamingue First Nation, une réserve algonquine située à environ 200 km de distance. Le nouveau-né a été adopté par des Québécois. On a dit à mes parents adoptifs que mes parents biologiques avaient perdu la vie dans un grave accident quand ma mère avait quitté l'hôpital. Même ses parents n'étaient pas au courant.
Donc, c'est ça, ils ont menti à tout le monde.
Oui, c'est ça. Serge Gagné-Wabi a rencontré sa mère biologique pour la première fois en juin 1996 à Ormstown, près de Valleyfield. Ça a été une grosse surprise d'apprendre que ma mère était vivante. On m'a tout le temps dit que ma mère était décédée avec mon père, mais ce n'était pas le cas. C'était un mensonge du gouvernement. Il a donc demandé à sa mère pourquoi il avait été placé en adoption. Elle m'a dit que je devais revenir avec elle, et puis, lors de l'accouchement, une sœur est arrivée, elle m'a pris, et elle m'a mis en adoption dans une autre ville. En octobre dernier, le gouvernement Trudeau a annoncé une entente de principe qui vise à régler 18 poursuites relatives à la rafle des années 60. Des milliers de victimes pourront recevoir la somme énorme de...
Aucune idée.
25 000 à 50 000 $ d'indemnisation pour avoir...
Pour une
vie. Je sais bien que les poches du gouvernement ne sont pas infinies, mais c'est presque une insulte. Mm-hmm. Alors, donc, d'indemnisation de la part d'Ottawa lorsque les négociations seront terminées, indique le ministère des Affaires autochtones et du Nord, qui précise que les discussions sont confidentielles. Les détails du règlement seront rendus publics lorsque la Cour aura approuvé un plan de notification visant à informer les personnes faisant partie du recours collectif et le grand public des modalités du règlement. L'avocat Eric Lowe du cabinet juridique Merchant, qui gère 10 poursuites judiciaires contre chaque province au pays pour obtenir des dédommagements, affirme que ces recours sont suspendus en attendant l'entérinement de l'entente par la Cour fédérale. Ce sont deux recours distincts et rien ne m'indique pour l'instant que l'entérinement fédéral mettra fin aux dossiers provinciaux. Bref, ils se renvoient mutuellement la balle peut-être. Serge Gagné a depuis obtenu son statut d'Indien puisqu'il a pu retracer ses véritables origines. Mais bien des enfants enlevés durant la rafle des années 60 ne savent pas ou n'ont jamais su, s'ils sont décédés avant, qu'ils étaient autochtones. Certains enfants, souligne-t-on, ont été adoptés sous une fausse identité. Une autre personne s'est fait dire qu'elle était mexicaine. Si elle n'avait pas poussé, elle penserait encore qu'elle est mexicaine. Ça va être complexe rejoindre les gens, nous explique M. Gagné, ajoutant qu'il tente de rassembler les victimes qui viennent du Québec. Pour l'instant, elles sont une vingtaine. C'est sûr qu'il y en a d'autres, mais ce n'est pas toutes les personnes qui savent qu'il y a un recours collectif présentement. Il a contacté chaque conseil de bande du Québec. C'est important de préciser que c'est seulement les Autochtones qui ont été adoptés par des familles non autochtones qui sont éligibles. Serge Gagné-Wabi espère que les victimes de la province seront entendues. On n'a pas eu un mot à dire sur ce sujet-là. Tout s'est passé du côté de l'ouest du pays. C'était tout en anglais. Ça, c'est au sujet des recours judiciaires. Selon l'homme de 54 ans qui vit aujourd'hui à Amos et à Berry, aucune indemnisation ne pourra guérir les blessures causées par tous ces mensonges. Le montant qu'on nous donne, c'est peu comparativement à ce qu'on a perdu. C'est notre culture, c'est notre langue. Nos futures générations, nos enfants et nos petits-enfants. Alors, Daniel, mettez un peu de musique dans notre vie.
Oui, oui. Mais comme je disais tantôt, je pense que tout le monde est déjà au courant, là, depuis deux jours, Dolores O'Riordan qui est décédée. Et j'ai fouillé hier, il y a plein d'articles qui ont été écrits un peu partout sur la planète. Mais j'en ai trouvé un sur Figaro, que j'ai trouvé le plus intéressant, qui s'intitule Dolores O'Riordan. O'Riordan, j'ai de la difficulté à le prononcer. Je pense que c'est O'Riordan. Ses confessions au live du Figaro. Et ça a été publié hier, le 16 janvier. La voix des Cranberries, qui s'est subitement éteinte dans la nuit de dimanche à lundi à Londres, était en 2012 l'invitée du Figaro Live Music. De retour avec le groupe irlandais, elle s'était exprimée sur leur reformation et interprété plusieurs titres, dont Zombie, devenu un des hymnes des années 80. 90, pardon.
Oui, merci. Elle,
t'as eu peur.
Est-ce que je suis si vieille que ça?
Elle avait fêté ses 46 ans en septembre. Dolores O'Riordan, la chanteuse irlandaise aux cheveux courts, puissante voix des 90s et leader charismatique des Cranberries, s'était éteinte subitement lundi à Londres. Sa mort, pour des raisons encore inconnues, n'est pas pour autant suspecte, selon la police locale. C'est bizarre quand même.
Mmh. Ouais.
Une mort
pas suspect, mais pas inconnue.
En tout cas. En ce début d'année 2018, la chanteuse était en voyage à Londres pour une session d'enregistrement préalable à une tournée. quelques mois plus tôt, les quatre amis de Limerick sortaient le disque Something Else, qui restera sans doute comme le dernier album des Cranberries. Après avoir connu un large succès dans les années 90, une longue pause musicale et quelques albums solo, la chanteuse avait reformé le groupe originaire de Limerick en 2009, ce qui déboucha sur une tournée mondiale et l'album Roses 3 ans plus tard. À cette occasion, Dolores O'Riordan, je vais finir par la dire comme il faut, était l'invitée du Figaro Live Music où elle avait interprété, accompagnée évidemment des Cranberries, Tomorrow, un titre phare de ce nouveau disque, ainsi que Zombie, qui restera l'hymne incontournable du groupe. No Need to Argue, l'album qui comprenait ce titre, s'est vendu à 16 millions d'exemplaires dans le monde et à 1,5 million en France. Voix de sa génération, d'après le premier ministre irlandais, elle s'était également confiée avec un recul et une sincérité rare sur l'expérience du succès et l'industrie musicale, mais aussi le besoin de faire une pause artistique. Avant d'évoquer le retour de la formation fondée par les frères Hogan et le batteur Fergal Lawler et le plaisir retrouvé de jouer ensemble. Mon parcours de vie est très différent de celui de la plupart des gens. Nous sommes devenus célèbres alors que nous étions adolescents. Alors je devais prendre un peu de temps pour redevenir un être humain, une mère, une épouse, une fille. Être à la maison en famille, ne pas ressentir l'obligation de partir en tournée, d'être dans un groupe. C'était super. Ensuite, j'ai enregistré 2 albums solo, un peu comme un hobby pour m'amuser. Et puis, notre reformation est survenue de façon très naturelle. C'est une bonne chose, nous nous amusons à nouveau, la fraîcheur est là, alors qu'à la fin des années 90, nous commencions à nous ennuyer. On a refait appel à Stephen Street, producteur des 2 premiers albums du groupe, car il a été celui qui a réussi à capturer le vrai son des Cranberries. Nous avons commencé à travailler avec lui alors que nous étions des ados. Nous adorions sa production et les groupes avec lesquels il avait travaillé, The Smith, New Order, Morrissey, etc. Ce disque a pris une bonne tournure parce qu'on n'essayait pas à tout prix d'écrire un single. Nous avons passé des moments très agréables à créer de nouvelles choses sans penser aux questions commerciales. Il y a des années, avec le succès des premiers albums, le groupe ressentait cette pression d'écrire des morceaux accrocheurs, alors nous sommes peut-être devenus trop prévisibles. L'avantage de s'être arrêté, c'est qu'on a recommencé à écrire par plaisir et à expérimenter. Comment expliquait-elle le succès de Zombie? Je n'en ai aucune idée. C'est une mélodie accrocheuse. Je pense aussi que le sujet est fort. La chanson traite de la guerre en Irlande du Nord, les attentats de l'IRA à l'époque, l'armée républicaine irlandaise, que la plupart des gens peuvent s'y identifier. J'ai remarqué lors des tournées internationales que la réaction du public était très forte parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu des proches dans des guerres ou autres. Ils établissent une connexion forte avec la chanson. C'est fascinant de voir cette émotion suscitée chez eux. C'est probablement thérapeutique. Il est bon de laisser ses sens s'exprimer, c'est une des fonctions de la musique. Beaucoup de gens adorent Zombie parce qu'elle a dû les aider à régler des choses dans leur vie. Je ne sais pas vraiment, une fois encore, vu mon expérience, j'essaie de ne pas m'engager trop en avance. On ne sait pas ce qui peut arriver demain ou le jour d'après. La vie est fragile. J'ai des enfants, des gens que j'aime. Je ne veux pas faire passer ma carrière avant ma vie. Je veux m'occuper d'eux. Parce que je ne serai pas là pour toujours. Certains d'entre eux ne seront pas là toujours. C'est important de passer du temps avec ces gens que vous aimez et qui vous ramènent à qui vous êtes.
Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together. They decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair, a golden starlight in your eyes so blue. That is why all the girls in town follow you all around.
Peut-être reconnu la pièce « They Long to be Close to You ». C'est interprété par la formation Cranberries, extrait de leur second album « No Need to Argue ». Mais ce n'était bien sûr pas une composition des Cranberries. C'est un succès qui date de 1970 par la formation The Carpenters.
Qui avait été écrit par Burt Bacharach, d'ailleurs, je pense.
Vous en savez plus que moi. C'est plus votre époque que la mienne.
Qui a écrit plusieurs hits qui ont été interprétés par plusieurs chanteurs très populaires. Voilà.
Et pour terminer cette première partie, on parle d'histoire avec vous, Serge.
Dans la presse du 31 décembre dernier, donc il y avait un article, plusieurs articles intéressants, dont celui-ci, « Des inventions ingénieuses », un article d'Étienne Plamondon-Aimont et d'Emmanuel Mosaïan Verschaivé, j'espère que je prononce bien, une collaboration spéciale. Alors, de tout temps, l'être humain a cherché à améliorer son sort, évidemment. Certaines personnes, plus créatives ou visionnaires, ont considérablement facilité notre vie quotidienne en inventant de nouveaux appareils. D'autres, en revanche, ont dévoilé des principes scientifiques qui pourraient causer notre propre perte. Ici, on pense tous au nucléaire. Téléphone et son combiné. Cette formidable invention qu'est le téléphone est née en... Risqueriez-vous une date?
À la fin du 19e siècle, je pense. Je ne sais pas quelle date.
Je
ne
dirais pas comme ça, ça me prend une date précise.
1893,
Pas loin là. 1874.
Bonne période.
J'ai été avisé seulement 20 ans plus tard.
mais entendons-nous. C'est
mon premier appel, je l'ai reçu.
Oui, c'est ça. Mais entendons-nous, ce n'est pas le lendemain matin que tout le monde avait téléphone à la maison. Ça a pris du temps à se développer. C'est à un certain Alexander Graham Bell, un Écossais émigré au Canada, que l'on doit ce télégraphe parlant. C'est comme ça qu'on appelait le téléphone avant, télégraphe parlant. 4 ans plus tard, Melville Bell se lance dans la commercialisation de la trouvaille de son fils et la compagnie de téléphone Bell du Canada est fondée en 1880. De son côté, en 1878, l'horloger et musicien québécois Cyril Duquet développait le premier combiné téléphonique dont il a malheureusement dû céder les droits, faute de fonds. Les banques lui avaient refusé un prêt, ne voyant pas d'avenir à son invention.
Effectivement. C'était pas quelque chose de nécessaire.
Non. Ensuite, le gramophone, ça vous dit quelque chose?
Oui.
Le gramophone, comme disaient les...
dont il fallait tourner la manuvelle.
L'ancêtre du iPhone.
très ancêtre, oui. Risqueriez-vous une date pour ça?
Non, ça vraiment... Non.
1887.
Moi, j'étais plus proche. Regardez la même date qu'à
temps. Oui, voilà.
Si l'homme caresse le désir de reproduire et de conserver les sons depuis très longtemps, c'est en 1887 que le premier gramophone a vu le jour. Cet ancêtre du tourne-disque a été commercialisé à Montréal par l'Allemand Émile Berliner.
Ben voyons donc.
Ce dernier, qui résidait aux États-Unis, ne pouvait y vendre son produit pour des questions de droit, car Thomas Edison avait lancé au même moment son phonographe, qui était un appareil mécanique à cylindre.
Oui, je me souviens.
Cylindre. Et ça, c'est...
Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'une chanson qui a un succès, on appelait ça un tube au début.
Oui,
parce
exactement.
Que cylindre, c'est un tube.
Ce n'était pas
un disque.
Oui.
Voilà.
Et c'est pourtant, cependant, le gramophone qui a pris le dessus et a progressivement remplacé l'invention d'Edison.
Pendant longtemps.
Oui,
avant que le CD arrive, ça a été quand même presque un siècle.
Oui. Oui, après le gramophone, il y a quand même eu la table tournante électrique.
Oui, mais ça ressemblait au même principe. C'est juste l'amplification qui a changé.
Oui, effectivement, c'est vrai.
Le cinéma, risqueriez-vous une date?
Oh,
1888.
Pas loin!
1893.
Vous êtes, vous êtes tous les deux. C'est entre 1895.
Bon.
C'est ça que je voulais dire. Mais...
On fait une bonne équipe.
Oui, quand même.
Alors, on dit action! Un jour de mars 1895, Louis et Auguste Lumière placent leur plus récente invention, le cinématographe, devant la porte de sortie de leur usine de Lyon en France. Ils filment les ouvrières en train de quitter les lieux. Les deux frères ingénieux se sont inspirés du kinétoscope de Thomas Edison pour mettre au point cet appareil.
Encore lui?
Ben oui! Pour mettre au point cet appareil capable à la fois d'imprimer sur une pellicule perforée un moment capté à la manière d'un appareil photo, puis de projeter ces images en recréant le mouvement. Dans les mois suivants, il commence à organiser des projections payantes. Le septième art vient de faire son entrée en scène.
C'était quoi les six premiers arts?
Ah, il y a sept arts.
J'ai toujours posé la question.
Je m'en occupe, Isabelle.
Je
m'en occupe.
Le chant.
Ah ouais. La scène. La scène.
Ouais. Enfin, on a mis un homme là-dessus.
Télévision. Quelle année?
Probablement après le film.
1900.
Les années 40.
C'est pas 50. Ah non, mais ça, c'est la télévision couleur 52. Mais la
Non, 52, c'était noir et blanc. Ouais,
c'est noir et blanc, OK. Ouais. Mais ou c'est au Canada qu'on a. Est-ce que c'est 52 puis c'était avant ça ailleurs? Ou... Moi, je me rappelle la date de 52.
C'est, ben, 52, c'est la création de la télévision de Radio-Canada.
Ah, Radio-Canada, bon,
oui. La couleur est arrivée dans les années 60.
Ben, avant ça, ça valait pas la peine.
Mais le principe de la télévision, on remonte au 26 janvier 1926.
26, ouais, quand même.
Oui, mais ça a pris quand même une bonne... ce qui a stoppé l'évolution, c'est une note personnelle, ce qui a stoppé l'arrivée de la télévision dans la société, c'est la Deuxième Guerre mondiale.
Mm-hmm.
Parce
que toute
l'énergie s'en allait à ce moment-là, à l'économie de guerre. Alors, mm-hmm. on a reporté ça. Alors, le 26 janvier 1926, l'inventeur John Logie Baird réalise à Londres une démonstration de son nouveau procédé mécanique. Il présente des images animées de ce qui est capté au même moment dans une autre pièce. Alors, c'était vraiment une pièce à l'autre, dans la même maison.
Oui, mais au moins, on montrait que c'était possible de le faire à distance. Oui.
L'événement marque le début de la télévision. Deux ans plus tard, Baird réalise un grand coup avec l'émission d'un signal télévisuel entre Londres et New York.
Oh boy, quand même!
Deux ans plus tard. De nouveaux mondes ont été ouverts ce matin quand des visages ont été transmis au-delà de l'océan, par la télévision, d'une façon qui n'avait jamais été prévue, même par Jules Verne, annonce la presse, en une du 9 février 1928. L'article précise que Baird était énervé comme un enfant.
Mais j'imagine. Ouais. Hey, mais il fallait quand même que des gens aient... C'était vraiment des visionnaires, ouais. parce qu'il fallait s'imaginer que ça allait fonctionner, qu'il fallait convaincre les gens que ça allait fonctionner, alors que ça avait l'air de la magie.
Télévisionnaire.
Absolument, oui. Le transistor...
Ah, ça, c'est plus récent.
Transistor, ben, en tout cas, 50? Non, c'est pas...
Pas loin, 1947.
47, ah. ouais. Moi, je fais arrondi.
Ah, va bien. Vous jouez safe, Daniel. Là.
Je pense qu'il y avait déjà ça pendant la guerre, mais non, hein, c'est vraiment après.
Ouais. En 1947, William Shockley demande à des chercheurs des laboratoires Bell au New Jersey de tester le potentiel des semi-conducteurs. Le 23 décembre, John Bardeen et Walter Brattain mettent au point un dispositif qui amplifie le courant électrique avec un cristal de germanium. Le transistor est né, qui marque aussi le début de la miniaturisation.
Mm-hmm. Oui, c'est ça, en fait, qui était la différence. Est-ce que ça permet
Par sa faculté de devenir un isolant ou un conducteur, il joue aussi un rôle d'interrupteur et facilite le contrôle du courant électrique. Plus petite, plus durable et moins énergivore que les tubes à vide, l'invention révolutionne l'électronique et se fait un nom avec les radios portatives fabriquées grâce à elle à partir de 1954. En 1958, les transistors, désormais conçus avec du silicium, commencent à être agencés ensemble et avec d'autres composantes dans les circuits intégrés ou ce qu'on appelle les puces. Maintenant, le cinéma IMAX. À l'occasion d'Expo 67, on se souvient, ben, ceux qui...
Oui, ça, je me souviens.
Moi, je me souviens
très,
pas.
Très, très jeune,
mais
je me souviens.
Les cinéastes canadiens Graham Ferguson et Roman Croitor expérimentent des projections dans des formats inusités. Ils fondent avec Robert Kerr et William Shaw une entreprise que Fuji approche pour concevoir un film sur écran géant dans le cadre de l'exposition universelle de 1970 à Osaka, au Japon. Ils mettent au point, avec l'aide de l'Australien Ron Jones, un projecteur dans lequel des pellicules de 70 mm défilent de manière horizontale avec un mouvement de boucle déroulante. Le procédé permet de projeter des images de 8 étages de haut. En 1971, IMAX Corporation inaugure sa première salle permanente de projection IMAX à Toronto. On en a une à Montréal aussi.
Mm-hmm.
Le Blackberry.
Oui, mais à l'Expo 67, si je me souviens bien, c'était un cinéma 360 degrés qui avait. Ouais, c'est pas la même chose que l'IMAX. C'était assez impressionnant. Ouais.
Mais c'était le prince. C'est ce qui a amené le... Mais
c'était l'idée de d'innover avec les formats, dans le fond, de projection.
Oui, ouais, parce que ça a disparu aujourd'hui.
BlackBerry, c'est le Canadien Mike Lazaridis qui a donné le coup d'envoi à l'ère de la communication numérique mobile. Son entreprise est la première à avoir commercialisé en 1997 un dispositif synchronisé avec le compte courriel de son propriétaire, une sorte de télévertisseur amélioré. Quelques années plus tard, le BlackBerry permettait de téléphoner, mais aussi d'envoyer et de recevoir des courriels en plus d'offrir une messagerie cryptée. Cette innovation a bouleversé le monde de la communication mobile en instaurant la possibilité d'être connecté partout et en tout temps.
C'est fou, on a complètement oublié que le BlackBerry a déjà été une innovation. Aujourd'hui, c'est... Ouais.
Une innovation nordique, l'autoneige.
Oui.
Ah oui,
Joseph Armand
Bombardier.
Dans les années 30, Joseph Armand Bombardier réparait des voitures dans le petit village de Valcourt. C'est une tempête de neige qui, en 1934, a littéralement chamboulé sa vie, les routes mal déneigées l'ayant empêché de conduire à l'hôpital, son fils souffrant d'une crise d'appendicite. Et le garçon a succombé.
C'est vraiment une motivation. Ouais.
Et ce drame a incité Bombardier à créer un véhicule capable de circuler rapidement pendant une tempête hivernale. Le premier exemplaire qui pouvait transporter 7 personnes, assez gros, était équipé d'une roue motrice à chenilles, sort de l'atelier en 1937, destiné dans un premier temps à une clientèle aisée. Cette invention révolutionnaire s'est démocratisée quelques années plus tard.
Effectivement, il y avait eu un documentaire aussi sur la vie de Joseph Armand Bombardier. Je pense que c'est Gilbert Sicotte qui jouait le rôle.
Plus qu'un documentaire, c'est une télésérie.
Une télésérie, je me souviens vaguement.
Qui faisait un peu de documentaire aussi par le fait même.
Très intéressant. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations historiques. Et après une courte pause, on vous revient avec les 6 premiers arts qui ont précédé le cinéma. À tout à l'heure.
Have to die for the 50 more. Oh, all night. He wants a young America.
Retour en 1975 avec le grand David Bowie, la pièce Young Americans, première pièce de l'album du même nom qui marquait quand même un départ de la période rock de David Bowie, puis incursion vers du disco et plusieurs autres genres. Ce n'est pas anodin ce choix, mais avant de céder la parole à Daniel, on va boucler la boucle.
Ah oui, les 6 premiers heures.
On ne vous fera pas languir plus longuement alors qu'on a parlé du 7e heure.
C'est David Bowie qui a changé de style assez souvent au cours de sa carrière. Et c'est pour ça que je voulais vous parler du documentaire. Oups, je t'ai coupé la parole. Là.
Mais oui, on veut.
Parce qu'on avait un teaser, comme disent les Français.
Ben, je voulais teaser encore plus longtemps.
Alors, vitement, pour ne pas empiéter sur votre temps d'antenne, Daniel, donc on a parlé du 7e art, bien sûr, le cinéma qui est un des plus connus. Le premier art étant l'architecture, le second, la sculpture. Le troisième, les arts visuels qui regroupent notamment le dessin et la peinture. En 4e position, et c'est ce qui nous intéresse dans ce cas-là, la musique.
Voilà.
5e art, la littérature, qui regroupe également la poésie. 6e art, les arts de la scène, qui regroupe la danse, le théâtre, le mime, le cirque. Le 7e art, on le connaît déjà, et pour les 7 arts, il y en a maintenant 10. Donc, 8e art, les arts médiatiques, dont la radio, la télévision, la photographie. En 9e place, c'est maintenant un art reconnu, la bande dessinée.
La bande dessinée, oui, j'avais vu ça, man.
Et en 10e position, le plus récent dans cette liste, le jeu vidéo.
Le jeu vidéo. Intéressant.
Ils sont absents de cette liste, les arts culinaires, la mode et l'art floral.
Ah, ils vont peut-être avoir l'art de la décoration.
Dans le cas de l'art culinaire, ça va sûrement venir. Ouais, alors, trêve sûrement, de parenthèse.
Avec tous les shows de télé.
David Bowie.
Oui, David Bowie, donc un article que j'ai vu sur un documentaire qui s'intitule « David Bowie, The Last 5 Years ». Et l'article s'intitule, malheureusement, « Pas à la hauteur
». Ah oui, bon.
Pas l'article, apparemment. Donc, je vais vous le lire quand même. C'est un article qui est paru dans la Presse Plus le 12 janvier, écrit par Francis Whiteley. Faut-il être un grand admirateur de David Bowie pour apprécier le documentaire « The Last 5 Years » Faut-il plutôt ne connaître que sommairement l'immensité de son œuvre? On hésite entre les deux. On le sait, Bowie avait orchestré sa mort artistique de main de maître avec l'album « Black Star », sorti 2 jours avant sa mort en janvier 2016. D'ailleurs, la vidéo est assez dérangeant, qu'on le voit sur un lit d'hôpital. Bon. Or, la production du documentaire « David Bowie, The Last 5 Years » du réalisateur Francis Whiteley, présenté lundi soir dernier sur les ondes de HBO, s'est amorcée après la mort de la légende du rock. Whiteley le connaissait très bien. Il avait réalisé un autre documentaire sur Bowie en 2013. « The Last 5 Years » promet de relater les 5 dernières années de carrière de Bowie. Or, il s'amorce en 2004, quand l'icône rock entreprend la plus longue série de spectacles de sa carrière, The Reality Tour. Un malaise cardiaque l'oblige à sortir de scène à Prague et à annuler le reste de la tournée. Ce fut le dernier spectacle de Bowie, et jusqu'à sa mort, il s'est tenu loin des caméras. David Bowie, The Last 5 Years, a réuni de nombreux musiciens et collaborateurs de Bowie, dont le réalisateur Tony Visconti et son ami Jeff McCormack. Depuis la diffusion du documentaire, plusieurs personnes ont souligné à quel point tous les éléments présentés dans le film relèvent du miracle pour un film qui se concentre sur les 5 dernières années d'un artiste malade extrêmement discret. C'est en effet un exploit, mais on tourne autour du pot pour nous rappeler à quel point Bowie était inspiré et en contrôle artistique jusqu'à la fin, avec très peu de détails sur son état de santé. Or, on n'y apprend rien d'extraordinaire. Et David Bowie était extraordinaire. Le film rend néanmoins hommage à la créativité avide et renouvelée de Bowie pendant la production de ses derniers albums, The Next Day et Black Star. On y présente de riches images d'archives et de grandes citations de Bowie en voix hors champ. Il est intéressant d'en savoir plus sur la collaboration entre Bowie et la compositrice jazz Maria Schneider et de voir à quel point il était visionnaire et conséquent avec l'ensemble de son œuvre pour ses derniers clips réalisés par Joan Rank. Fort touchant aussi de voir Tony Visconti à sa console de son, ému aux larmes d'isoler la voix de son ami Bowie sur la chanson « Lazarus ». C'est la chanson dont je vous parlais tantôt, le clip sur lequel on le voit
coucher
sur son lit d'hôpital.
Sur son lit d'hôpital.
Or, l'album Black Star et toute la mise en scène de sa sortie demeure pour nous le testament par excellence de la grandiose carrière de David Bowie.
Comme d'habitude, complètement ailleurs. Je vous amène à Thunder Bay, qui est la ville où il y aurait le plus de crimes haineux, le plus haut taux de crimes haineux au Canada, pas au monde, là. J'espère, en tout cas.
Belle réputation.
C'est un article que j'ai trouvé sur Ici, Nord de l'Ontario, le site de Radio-Canada. Racisme, une école devient un refuge pour de jeunes autochtones. Ça a été publié le 13 janvier. Et c'est un texte de Joël Achac et de Stéphanie Laperrière. Manque de financement, parents craintifs et élèves au lourd passé, tout semble jouer contre l'école secondaire Dennis Franklin Cromarty, située à Thunder Bay, la ville canadienne donc où le taux de criminalité est le plus élevé. L'école aspire à offrir un avenir et une nouvelle famille aux jeunes autochtones qui ont dû quitter leur communauté pour y étudier. Un rêve constamment mis à mal. Dennis Franklin Cromarty, ou DFC, a les allures d'une école comme les autres. Dans ses couloirs au ton jaune pastel, l'atmosphère y est chaleureuse, ponctuée par les bruits typiques d'adolescents qui rient et qui se chuchotent les derniers potins du week-end. Un matin de décembre, durant une pause, deux élèves décorent le sapin de Noël, faisant parfois quelques pas en arrière pour mesurer l'arbre d'un œil artistique. Dans la salle des aînés, une pièce de repos et d'échange, des adolescentes discutent, assises sur un canapé moelleux, pendant que John, un des aînés, prépare de la bannique, une pâtisserie autochtone frite dans l'huile. Il en offre avec sourire et insistance à tous ceux qui passent. Se trouvant là par hasard, un visiteur non averti serait loin de se douter que le gymnase de l'école a plusieurs fois été transformé en salle de cérémonie funèbre ou que bon nombre des élèves qui chahutent joyeusement dans les couloirs viennent de familles accablées par le suicide et la violence. Ce sont des bagages qu'ils traînent avec eux, un poids invisible dans leur sac à dos. L'école Dennis Franklin Cromarty a été fondée en 2000 par le Conseil de l'éducation des Anishinaabe du Nord. Ce conseil, gouverné par les chefs de 24 Premières Nations du Nord de l'Ontario, tente d'assurer la réussite scolaire des jeunes autochtones tout en conservant leur héritage ancestral. « DFC est devenue ma maison », résume l'élève de dernière année, Alena Sakshekapo. Dans sa salle d'entraînement, la lutteuse de 17 ans est dans son élément. Assise sur son banc, entourée d'haltères, elle n'a que de bons mots pour son école. Derrière son apparence frêle et timide, le ton et le regard de l'adolescente laissent percevoir un esprit combatif, résultat d'une vie déjà remplie d'épreuves. Quitter une communauté de 900 habitants à l'âge de 14 ans pour s'installer à Thunder Bay dans une famille d'accueil a été, elle l'admet, une transition très difficile. Rien que de retrouver son chemin dans les nombreuses rues de la ville était une épreuve. Cette école est probablement l'élément le plus stable qui existe dans ma vie. Malgré les bons mots des élèves, les inscriptions à DFC sont en chute libre. Le nombre de jeunes qui choisissent de quitter leur communauté pour venir y étudier est passé d'une moyenne de 150 dans les dernières années à 76 cet automne, soit presque moitié moins, selon Greg Quachegan, le directeur adjoint de l'école. Pardon. Ce sont les sinistres événements qui ne cessent de ternir la réputation de Thunder Bay qui sont en cause, selon lui. En 2015, notamment, la ville a fait les manchettes lorsque le coroner de la province a ouvert une importante enquête sur la mort de 7 jeunes à Thunder Bay, dont 6 fréquentaient l'école secondaire DFC. Le printemps dernier, après que les corps de 2 autres adolescents eurent été retrouvés dans une rivière du centre-ville, le grand chef de la nation Anishinaabe-Aski, Alvin Fiddler, alarmé par la situation, a demandé à la ville de déclarer l'état d'urgence. « Je pense que les parents dans le Nord ont peur d'envoyer leurs enfants ici. Et je le serais aussi si je vivais là-bas », admet l'enseignant d'histoire Greg Chomut, admettant que la couverture médiatique accentue l'image négative de Thunder Bay. Ainsi, l'un des plus grands défis pour l'école secondaire est de surmonter la mauvaise réputation de la ville. Je ne veux pas que nos élèves aient le sentiment que tout le monde est xénophobe, dit Greg Chomut, debout dans une salle de classe dont les murs sont couverts de dessins faits par des élèves. Je ne veux pas qu'ils se promènent dans la ville en pensant que les gens ont des idées racistes à leur égard, parce que ça créerait énormément de frustration. Pardon. Mais chaque fois qu'un jeune autochtone est retrouvé mort à Thunder Bay, la nouvelle a l'effet d'un séisme à DFC. Et tout est à rebâtir. C'est tragique. Même si les élèves ne connaissent pas les défunts, ils s'identifient à eux parce qu'ils viennent aussi d'une Première Nation et qu'ils ont le même âge et le même parcours. Des conseillers sont mis à la disposition des jeunes en tout temps pour les aider à surmonter ces épreuves qui s'ajoutent à toutes celles qu'ils vivent au quotidien. Car les élèves traînent de nombreux traumatismes émotionnels. Ils ont été témoins de suicides et de pauvreté dans les réserves. Landon Wesley, âgé de 19 ans et originaire de Cat Lake, une communauté à plus de 400 km au nord de Thunder Bay, a convaincu ses parents de le laisser aller à DFC malgré leur forte opposition. Ils m'ont dit qu'ils avaient peur que je finisse moi aussi dans la rivière. Encore en sueur après son cours de sport, le jeune homme confie d'une voix nonchalante avoir connu des situations personnelles éprouvantes, mais il préfère ne pas les raconter. Pour lui, quitter sa communauté d'environ 500 habitants pour étudier à Thunder Bay était une issue de secours impérative. « Mon ancienne vie était malsaine, j'avais des problèmes de santé mentale, j'étais en colère », dit-il en décrivant des conditions de vie déplorables à Cat Lake. DFC lui a permis de reprendre confiance en lui. Avoir une bonne note, c'est vraiment gratifiant. Reste que de fréquenter l'école secondaire DFC est un véritable chemin de croix pour ces adolescents. Ce n'est pas tant à cause de l'école pour laquelle les élèves ne tarissent pas d'éloges, mais des nombreux sacrifices qu'il faut faire. Ils ont quitté leur maison, leur famille, leur communauté pour venir dans une ville où ils n'ont jamais vécu et doivent, pour la première fois, faire face au racisme. Mais l'envie d'avoir une vie normale était plus forte que tout pour Alena Sakshekapo, originaire de Wigamo Lake, une petite communauté au nord-ouest de l'Ontario. « J'étais complètement dépassée, c'était troublant », se dit-elle en se rappelant son arrivée à Thunder Bay. « Je me suis repliée sur moi-même parce que je n'étais pas habituée à avoir autant de gens autour de moi. » Après un an et demi passé dans une école secondaire publique de Thunder Bay où elle peinait à se faire des amis, Alena a choisi d'être transférée à DFC. « Tout le monde comprend ce que tu traverses ici. » « Nous ne sommes pas normaux. Des jeunes de 13 ou 14 ans qui quittent leur famille pour étudier dans une grande ville, ça attire le regard des gens. » À leur arrivée, les jeunes sont confiés à des familles d'accueil. Une situation qui peut s'avérer instable et s'accompagner d'un lot de problèmes. Alena dit avoir changé de lieu de résidence à 13 reprises au cours des 3 dernières années et ajoute que son cas n'est pas isolé. Encore aujourd'hui, elle hésite à défaire complètement ses bagages de peur d'être de nouveau renvoyée de sa famille d'accueil. Juste imaginer de poursuivre des études secondaires.
L'adaptation à chaque fois.
Dans une période de la vie qui est déjà difficile en l'adolescence, personne n'a trouvé ça facile. La sécurité et l'encadrement des élèves s'en trouvent aussi amoindris. Des élèves vivent de l'autre côté de la ville, parfois à une heure d'autobus de l'école avec 2 ou 3 correspondances. Mais pour pouvoir pallier tous ces problèmes, DFC milite depuis des années pour la construction d'une résidence pour les élèves, mais le gouvernement fédéral fait la sourde oreille. L'école est gérée par les Premières Nations et financée par le ministère des Affaires autochtones et Développement du Nord-Canada. Le ministère refuse de financer la résidence parce que le site n'est pas situé dans une réserve. Ottawa dit être disposé à explorer diverses options pour l'hébergement des élèves à Thunder Bay. Sans donner d'échéancier, le ministère indique dans un courriel que le fédéral a accepté de financer une étude de faisabilité jusqu'à 300 000 $. En attendant, DFC met en place des solutions provisoires. L'école offre des services de navette nocturne pour les élèves et contacte les familles d'accueil tous les soirs à 22 heures pour s'assurer que les jeunes sont bien rentrés. Si les familles sont toujours sans nouvelles à minuit, un rapport de personnes disparues est immédiatement rempli. Au cours d'une entrevue dans les couloirs de l'école, le directeur adjoint s'interrompt plusieurs fois dans ses réponses, s'efforçant de ne pas insister sur les aspects négatifs de Thunder Bay, un exercice visiblement difficile. L'intention de Greg Quachegan de mettre en valeur son école est justifiée. DFC demeure un établissement agréable et invitant où la passion du personnel est palpable. Les enseignants déplorent de voir eux-mêmes demander des subventions et des bourses à répétition pour éviter que le bâtiment ne tombe en décrépitude, mais leurs efforts sont payants. Leurs ateliers de soudure, de musique et de menuiserie pourraient faire des envieux. DFC est un lieu où les élèves peuvent se sentir fiers de ce qu'ils sont et d'où ils viennent. La visite de l'école se termine dans la salle de menuiserie où Greg Quachegan montre fièrement des arcs fabriqués par les élèves. Car à DFC, la solution passe aussi par l'accent mis sur les traditions autochtones. Dans une ville où l'origine de ces jeunes est constamment synonyme de tragédie, tous les efforts sont faits pour valoriser leur héritage. Alors, pour terminer encore avec vous, Serge.
Mm-hmm. Comment ça,
vous allez
encore avec vous?
On a terminé la première partie avec vous, puis là, on va encore tester nos connaissances, peut-être, oui. Ou peut-être pas.
On teste nos connaissances, on va apprendre
quelque chose, oui. C'est certain.
Alors, toujours de la presse du 31 décembre, un article, toujours des deux mêmes journalistes, Étienne Plamondon-Aimont et Emmanuel Mosaillant-Verchaévé, sur le grand saut dans l'ère numérique. Alors, l'informatique et l'avènement d'Internet ont complètement bouleversé nos façons de travailler, de nous informer et de communiquer, et ils nous rappellent quelques dates clés. Alors, il commence avec, en 1943, en pleine Deuxième Guerre mondiale, avec un calculateur qui s'appelle Colossus.
Colossus, oui.
En pleine Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne cherche la clé pour déchiffrer certains messages codés transmis entre les Allemands. Pour y parvenir, elle met au point le calculateur Colossus qui percera le mystère du code Lorenz utilisé par l'ennemi. Le calculateur était capable d'effectuer 5000 opérations à la seconde.
Oui, je me souviens, il y a eu un film sur ça.
Oui. Et d'ailleurs, c'est, petite note, là, c'est que tout à l'heure, on parlait de la télévision, le développement était retardé par la Deuxième Guerre mondiale, mais par contre...
Mais autre chose qui a été accélérée, c'est ça?
Oui. L'ordinateur ENIAC en 1946. Le coup de foudre pour l'ordinateur se produisit le jour de la Saint-Valentin, en 1946. L'Electronic Numerical Integrator and Calculator, ENIAC, est dévoilé à l'Université de Pennsylvanie devant un public médusé par sa capacité de calcul. 1000 fois plus rapide que les calculatrices mécaniques de l'époque, la machine de 30 tonnes vise d'abord à prévoir les trajectoires balistiques, mais sera à la base du développement de l'informatique. La puce... En 1958, la course à la miniaturisation est lancée. Jack Kilby et Robert Noyce inventent en 1958, chacun de leur côté, le circuit intégré. Avec ses fils de connexion qui dépassent, celui-ci rappelle un insecte, ce qui lui vaut le surnom de puce. Le silicium semi-conducteur utilisé dans sa fabrication inspirera le nom de Silicon Valley.
Okay.
Ah, c'est vrai. Ben oui, effectivement.
En 1971, Intel lance le 4004, le premier microprocesseur commercialisé, et pave la voie vers le micro-ordinateur. Ensuite, on s'en va en 1968, premier casque de réalité virtuelle.
Ah oui, c'est 1968, j'aurais pas pensé.
Les premières références à la réalité virtuelle datent de 1935, quand l'auteur de romans de science-fiction Stanley J. Weinbaum décrit des lunettes permettant d'accéder à un univers virtuel dans une nouvelle. Mais ce n'est qu'en 1968 qu'un chercheur du Massachusetts Institute of Technology, Ivan Sutherland, conçoit The Ultimate Display, un premier dispositif de visualisation virtuelle. À partir de 1990, les casques de réalité virtuelle nous plongent dans un monde artificiel et vont s'imposer dans le domaine du jeu vidéo. 1971, courrier électronique.
Ah oui.
L'ingénieur
mais
américain...
Mais c'était pas ouvert à tout le monde.
Non. L'ingénieur américain Ray Tomlinson s'envoie lui-même le premier courrier électronique par le biais du réseau ARPANET en 1971. La teneur du message, bon, QWERTYOP. Alors, on me dit pas ce que ça veut dire.
QWERTY, c'est sur un clavier, clavier de dactylo ou d'ordinateur. Ah, ouais. C'est l'ordre des lettres.
OK. Gauche. C'est également lui qui proposa l'utilisation du signe, le A commercial, dans l'espace du destinataire. En 1976, John Whittle crée MSG, l'ancêtre des logiciels de messagerie comme Outlook, mais ce n'est que vers le début des années 90 que le courriel prendra véritablement son envol. L'ordinateur à la maison, c'est en 1977. Dans 10 ans au maximum, vous aurez un ordinateur à la maison, prédit le chroniqueur Yves Leclerc dans la presse du 1er octobre 1977. Cette année-là, le micro, les micro-ordinateurs Commodore, Commodore PET et Apple II sont mis en marché. Ces appareils entrent massivement dans les foyers quelques années plus tard avec l'apparition du Personal Computer d'IBM en 1981 et du Macintosh Apple en 1984.
Mm. Je me souviens des premiers Commodore, je pense que c'était ceux-là, on pouvait les brancher sur un écran de télévision. Acheter juste
Ah, c'est ça. Alors que l'Apple, le Macintosh, lui, il avait son propre petit. C'était tout petit. Mon père en avait
c'était
un.
C'était 3 et haut. Le moniteur est à peu près grand comme ça, 10 pouces.
Ouais.
On passe à 1982 avec la messagerie instantanée. La messagerie instantanée, clavardage ou chat en anglais, permet d'échanger instantanément des messages ou des fichiers. À la différence du courriel, il ouvre la porte à un dialogue interactif. En 1996, le précurseur ICQ fait ses premiers pas avant de devenir la propriété d'AOL en 1998. L'essor de concurrents comme MSN, Messenger, Skype, Viber et WhatsApp ont grandement réduit sa popularité.
Ouais.
Virus informatique, ça vous dit quelque chose?
Ah oui, mais déjà arrivé.
Risqueriez-vous une date?
Le premier virus informatique,
ça
imagine que...
90, début des années 90.
Oui, on parle ici, on date ça en 1986. Là. Ah. Après le lancement de Windows en 1985, deux informaticiens cherchent à vérifier s'il contient des failles de sécurité. C'est ainsi que le premier virus baptisé Brain voit le jour. Brain, hey. Quelques années plus tard, les premiers antivirus naissent à leur tour. C'est le début d'une bataille qui est encore loin d'être gagnée. I Love You, Lucky, Netsky, Jigsaw, Petya, nous ne sommes plus au bout de nos peines.
Oui.
1989, le World Wide Web. C'est le physicien britannique Tim Berners-Lee qui a imaginé le World Wide Web, WWW, plus connu sous le nom de web ou de toile. À l'origine, ce projet devait permettre à des scientifiques et à des chercheurs universitaires œuvrant partout dans le monde d'échanger des informations instantanément. Il est aujourd'hui devenu une vaste toile virtuelle et universelle.
Et voilà. On ne peut pas s'imaginer un monde sans le World Wide Web aujourd'hui.
Et tout quand on pense en 1947, l'ordinateur qui pesait 10 tonnes, puis aujourd'hui, un ordinateur, ça pèse quoi? Une puce, à peu près.
C'est vraiment pas beaucoup. Ouais. Alors, c'est ce qui met fin à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup, Serge Bradet, Daniel Lachance. Jean-Sébastien, la liberté à la mise en onde et moi-même Isabelle Falardeau. Bien, on vous dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonjour. Et c'est la belle voix d'Hélène qui nous suit avec le quotidien des quotidiens.
Mm-hmm.